Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Mémoire de guerre 1941-1945 constitue la seconde partie française des vastes mémoires de Winston Churchill sur la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage couvre la phase où le conflit européen devient pleinement mondial, l'invasion de l'Union soviétique, l'entrée en guerre des États-Unis, la lutte maritime dans l'Atlantique, les campagnes méditerranéennes, le débarquement allié, puis l'effondrement du Reich et le règlement politique de la victoire. Il ne s'agit ni d'une histoire universitaire neutre, ni d'un simple journal personnel. Churchill écrit comme un ancien Premier ministre britannique qui a participé directement aux décisions décrites et qui entend expliquer leur logique à partir de télégrammes, de comptes rendus, de souvenirs et de documents officiels. Son propos associe donc chronique diplomatique, analyse stratégique et défense de son propre rôle. La valeur du livre tient à cet accès inhabituel au raisonnement du pouvoir en temps de guerre. Tandis que sa limite découle de la même origine, le lecteur doit constamment distinguer le témoignage capital de l'interprétation intéressée d'un acteur majeur. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la mondialisation du conflit transforme la stratégie britannique. Le livre montre comment l'année 1941 modifie radicalement les données de la guerre. Avant l'attaque allemande contre l'Union soviétique et l'entrée des États-Unis après Pearl Harbor, le Royaume-Uni porte l'essentiel de l'effort militaire contre l'Axe en Europe occidentale et en Méditerranée, une fois ces deux puissances engagées. Churchill peut envisager la défaite finale de l'Allemagne, mais doit aussi apprendre à diriger une coalition dont Londres n'est plus l'unique centre. Cette transition est essentielle. Disposer d'alliés plus puissants ne simplifie pas automatiquement la conduite de la guerre. Elle crée des problèmes de priorité, de commandement, de transport maritime, de partage des ressources et d'objectifs politiques. Churchill présente la stratégie comme un travail permanent d'arbitrage entre plusieurs théâtres: protéger les communications impériales, maintenir la Méditerranée ouverte, soutenir l'Union soviétique et préparer le retour sur le continent européen. Le lecteur comprend ainsi que la victoire alliée ne découle pas seulement d'une supériorité industrielle ou démographique. Elle dépend de la capacité à coordonner des forces, des intérêts nationaux et des calendriers souvent divergents. Le regard de Churchill privilégie naturellement la contribution britannique, mais il éclaire avec force le passage d'une guerre de survie à une guerre de coalition mondiale. Deuxièmement, la bataille de l'Atlantique, comme condition matérielle de toute reconquête, Churchill accorde une place déterminante à la bataille de l'Atlantique. Car la maîtrise des routes maritimes conditionne l'ensemble de la stratégie alliée. Les armées, les avions, le carburant, les vivres et les matières premières nécessaires au Royaume-Uni doivent traverser l'océan, malgré la menace des sous-marins allemands et, dans certaines zones, de l'aviation ennemie. Cette guerre des convois apparaît moins spectaculaire qu'une grande bataille terrestre, mais elle décide de ce qui devient militairement possible. Sans flux continus venus d'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne ne peut ni soutenir durablement son effort de guerre, ni rassembler les moyens d'un débarquement en Europe. L'intérêt analytique du récit réside dans cette attention portée aux liens entre opérations, production, renseignement, escorte navale et logistique. Churchill rappelle ainsi que les décisions stratégiques ne portent pas uniquement sur la prise d'un territoire, elles dépendent de réseaux vulnérables et d'une capacité à réduire les pertes à un niveau supportable. Son récit fait sentir l'incertitude qui accompagne cette lutte longue où chaque convoi perdu peut avoir des conséquences cumulatives. Pour un lecteur contemporain, cette partie offre une leçon claire sur la centralité des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement dans les guerres modernes. Troisièmement, la Méditerranée révèle les désaccords sur l'ordre des offensives alliées, les campagnes d'Afrique du Nord, d'Italie et de Méditerranée permettent à Churchill d'exposer sa préférence pour une progression graduelle contre l'Axe avant l'assaut décisif en France. Il voit dans cet espace un moyen de combattre les forces allemandes et italiennes, de sécuriser des voies maritimes vitales et d'exercer une pression sur ce qu'il nomme le ventre mou de l'Europe. Cette orientation ne fait pourtant pas l'unanimité chez les alliés, notamment lorsque la puissance américaine favorise une préparation plus directe de l'ouverture d'un second front à l'ouest. Le mérite du livre est de rendre visible le caractère non mécanique de la stratégie des partenaires qui partagent l'objectif de vaincre Hitler peuvent s'opposer fortement sur les moyens, le rythme et le lieu de l'effort principal. Churchill défend ses choix en soulignant les risques d'une action prématurée à travers la Manche et les avantages politiques de la Méditerranée. Mais le lecteur doit aussi noter que cette argumentation est celle d'un responsable qui justifie après coup ses préférences. Les mémoires sont particulièrement instructifs lorsqu'ils sont lus comme un dossier de décision contestée plutôt que comme un verdict définitif. Ils montrent comment géographie, ressources disponibles, impératifs impériaux et relations interalliées influencent les opérations. Quatrièmement, les conférences au sommet lient victoire militaire et avenir de l'Europe au fil des rencontres entre dirigeants alliés. Churchill décrit une guerre qui se joue autant dans les conférences que sur les champs de bataille. Les échanges avec Franklin D. Roosevelt et Joseph Staline portent sur les priorités militaires immédiates, mais aussi sur les frontières, les gouvernements et l'équilibre futur du continent. L'ouvrage permet donc de saisir une tension structurante pour vaincre l'Allemagne, les alliés doivent coopérer étroitement. Pour organiser la paix, leurs intérêts et leurs conceptions politiques divergent de plus en plus. Churchill insiste sur la nécessité de préserver l'influence britannique et de défendre une Europe qui ne soit pas entièrement dominée par l'Union soviétique. Toutefois, les rapports de force réels pèsent lourdement sur ses ambitions, particulièrement à mesure que l'armée rouge avance vers l'Europe centrale et orientale. Cette dimension diplomatique évite de réduire la fin de la guerre à une simple succession de victoires militaires. Elle explique pourquoi la libération de territoires, la reconnaissance de gouvernements et le tracé des zones d'influence deviennent des sujets si sensibles. Les mémoires ont néanmoins une limite nette. Churchill cherche à présenter ses initiatives sous un jour favorable et peut minimiser ses hésitations ou l'efficacité limitée de certaines négociations. Cette subjectivité fait partie de leur intérêt, à condition de la confronter à d'autres sources. En dernier lieu, un témoignage documenté. Mais construit pour orienter le jugement historique, Churchill compose ses mémoires après la guerre avec l'aide de collaborateurs militaires et civils, en s'appuyant sur des archives, des notes et une abondante correspondance officielle. Cette documentation donne au livre une densité rare, le lecteur accède aux formulations, aux échanges et aux dilemmes qui entourent les grandes décisions. Mais cette richesse ne doit pas être confondue avec une objectivité complète. L'auteur est simultanément témoin, décideur, écrivain et ancien chef de gouvernement. Il sélectionne les épisodes, organise leur enchaînement et leur attribue un sens politique. Son écriture énergique, ses portraits et son goût de la formule donnent une cohérence dramatique à une réalité souvent confuse, faite d'informations incomplètes et de compromis. La méthode produit donc un ouvrage hybride, une source primaire de premier ordre et une œuvre de justification personnelle. Churchill ne cache pas entièrement les désaccords ni les revers, mais le cadre narratif tend à valoriser sa clairvoyance, sa ténacité et la place de la Grande-Bretagne. Lire ces pages avec profit suppose de tenir ensemble deux idées, elles offrent un point de vue exceptionnel depuis le sommet du pouvoir. Et elles ne remplacent pas une histoire critique fondée sur la pluralité des archives et des perspectives nationales. Cette double nature explique leur permanence. En conclusion, Mémoire de guerre 1941-1945 s'adresse d'abord aux lecteurs déjà curieux de la Seconde Guerre mondiale et désireux de comprendre comment ses principaux choix furent perçus depuis. Le gouvernement britannique. Les étudiants en histoire, les lecteurs de biographies politiques et les personnes intéressées par la diplomatie de coalition y trouveront un matériau particulièrement stimulant. Le bénéfice principal n'est pas de recevoir une synthèse définitive et impartiale du conflit, il consiste à observer la décision politique au contact des contraintes militaires, logistiques et diplomatiques. Le livre aide notamment à comprendre pourquoi la bataille de l'Atlantique, les opérations méditerranéennes, le Second Front et les négociations avec Washington et Moscou ne peuvent être étudiés séparément par rapport à une histoire générale de la guerre, souvent plus équilibrée dans la distribution des points de vue et plus attentive aux recherches ultérieures. L'ouvrage se distingue par la proximité de son auteur avec les événements. Churchill restitue le langage, les priorités et les tensions du sommet allié avec une autorité narrative qu'un historien extérieur ne peut reproduire de la même manière. Son style ample, volontiers ironique et fortement architecturé, transforme en outre une masse documentaire considérable en récit lisible. Cette force est inséparable de sa faiblesse, le texte défend une vision britannique et churchillienne de la guerre. Il convient donc de le lire comme un témoignage argumenté, en gardant un regard critique sur ses silences et ses auto-justifications. C'est précisément cette alliance de documentation, de littérature politique et de subjectivité assumée qui le rend plus singulier qu'un simple manuel ou qu'un récit militaire spécialisé. Si vous souhaitez soutenir Winston Churchill, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.